With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech. Vous avez une seule chose à écouter. Et ben, c'est très simple. Vous écoutez Le Rendez-vous Tech et vous avez tout ce qu'il se passe dans le monde merveilleux de la technologie, tous les nouveaux gadgets, toutes les nouvelles controverses, toutes les choses qu'il faut retenir avec, j'espère, un petit peu d'analyse, bien sûr, mais aussi de bonne humeur et que ça vous fera passer un bon moment. Je suis Patrick Béja et j'ai l'immense plaisir et l'honneur de recevoir Lucie Ronfaux qui revient dans l'émission. Lucie Ronfaux du Figaro Tech. Comment ça va, Lucie?
Bah, ça va très bien, et toi?
Écoute, moi je suis en forme. Tu m'as dit que tu avais un petit rhume qui t'avait prise, mais tu es quand même là pour l'émission, donc je suis très reconnaissant.
Quand même là pour l'actualité tech, toujours.
Oui, bien sûr, quel que soit qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Tu m'as dit que les conditions, en plus à Paris, les jours derniers étaient assez difficiles. Vous aviez 30 degrés, une chaleur insupportable. Moi qui...
Oui, autant dire le temps idéal pour avoir un rhume.
Oui, moi, il fait plus de 5 degrés ici en Finlande, donc je suis content, tu vois, c'est la fête aussi. On a des choses hyper intéressantes dont on va discuter. On a une sorte de, je crois qu'on peut dire, le fiasco du Galaxy Fold, du premier téléphone pliable sérieux commercialisé. Je pense qu'on peut dire fiasco, hein.
Oui, je pense que le mot est justifié.
Voilà. on va vous expliquer exactement ce qui s'est passé. On a aussi la grande surprise d'Apple et Qualcomm qui enterrent l'âge de guerre. Et c'est un sujet qu'on va détailler aussi, qui n'était pas du tout attendu et qui a des ramifications dans l'industrie en général. Puis on a plein de petits sujets divers comme Google qui se plie aux demandes de l'Union européenne sur Android, Microsoft qui fait des AirPods, Amazon et Google qui font des services de musique gratuits, etc., etc. La nouvelle application de messagerie pour le gouvernement français qui est intéressante aussi. Mais donc, avant ça, on va parler du Galaxy Fold et de Apple et Qualcomm. Et j'aimerais bien sûr prendre le temps de remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission. En l'occurrence, aujourd'hui, je voudrais dire un immense merci à Grammaire, Damien Mathias, David Carpena, Caligone, Marc Bender, CBI et Johan Jaquel. Merci à vous tous. Ce sont des gens comme eux, comme vous, qui permettaient à l'émission d'exister. C'est le moyen de financer le Rendez-vous Tech. Donc, si vous appréciez l'émission, si vous passez un bon moment, si vous l'écoutez depuis quelques mois et que vous vous rendez compte que c'est un plaisir de retrouver l'émission quand vous voyez qu'il y en a une nouvelle dans votre app de podcast, et ben peut-être aller faire un tour sur patreon.com/rdvtech pour voir si vous voulez la financer. Ça ferait très plaisir et ça serait vraiment apprécié. Donc, Galaxy Fold. Alors, Lucie, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout était, les étoiles étaient alignées, tout était en place pour que le premier téléphone portable sérieux, vraiment utilisable, soit lancé dans quelques jours, là, le 26. Et on a vu l'annonce aujourd'hui ou hier que Samsung décalait la date de lancement, sans doute de plusieurs, et qu'ils vont parler de la nouvelle date de lancement dans plusieurs semaines. Et on a vu des articles détaillant les raisons de ce décalage. Est-ce que tu veux expliquer un petit peu ce qui s'est passé ou est-ce que je
oui,
prends
bien
charge?
Vas-y. Bon, si tu veux bien, ouais. Donc, le Galaxy Fold, ça fait partie de ces... En fait, Samsung a été la première marque hein, à dévoiler le fait qu'il travaillait officiellement sur un smartphone pliable. Il a réussi à coiffer au poteau Huawei en faisant son annonce 2 ou 3 semaines avant le Mobile World Congress de Barcelone. Donc, tout le monde attendait ce smartphone avec impatience. Il était censé sortir, là, il y avait un événement événement presse prévu à la fin de la semaine. Sauf que patatras, plusieurs journalistes américains et des blogueurs, aussi un youtubeur, etc., en fait, ont cassé leur Galaxy Fold. Et quand je dis cassé, c'est vraiment l'écran ne répond plus, l'écran ne marche plus de moitié. Donc, pour ceux qui voient pas à quoi ressemble le Galaxy Fold, c'est vraiment un smartphone qui a l'air assez classique comme ça, mais qu'on peut déplier en une sorte de grand smartphone qui est plutôt un format tablette, en fait. Donc, c'est clair que ça fait rêver, hein, c'est le un peu smartphone de science-fiction, entre guillemets. Sauf qu'en fait, moi, ça me fait rire parce que c'est vraiment bête, hein, comme erreur. Sauf que, en fait, le Galaxy Fold était protégé par une sorte de couche protectrice qui ressemble un peu à un
protecteur d'écran, quoi. Un protecteur d'écran, vous savez, qu'on met.
Voilà, vous savez, c'est le genre de truc qu'on met pour protéger de la poussière, des rayures, etc. Sauf que dans certains modèles qui ont été livrés aux journalistes américains, cette couche protectrice, en fait, était très légèrement décollée sur le côté. Donc, du coup, les journalistes ont eu un réflexe, somme toute logique, hein, moi j'aurais eu le même, je pense, c'est qu'ils ont commencé à retirer cette couche protectrice et le smartphone ne marchait plus. Parce qu'en fait, cette couche protectrice n'était pas. Alors, il faut rappeler que c'est un smartphone à 2020 euros quand même. Hein, donc, on parle de. C'est même plus du haut de gamme, là. Hein, c'est du très, très haut de gamme. Et il suffit, entre guillemets, de retirer cette couche pour le rendre inutilisable. Donc, Samsung, au départ, a un peu minimisé en disant que oui, mais le problème, c'est effectivement ces journalistes qui avaient retiré la couche, etc. Alors déjà, pour moi, c'est pas un super argument parce que un smartphone, c'est quand même fait pour être utilisé et que moi, en tant que consommatrice, si je vois un smartphone avec une protection qui est légèrement décollée, ben, mon réflexe, c'est de le décoller. Hein. C'est assez logique. Enfin, je sais pas toi, Patrick. Hein, mais
non, ben, bien moi, sûr. En plus, ça te démange. Ça, moi, t'as envie de le retirer. Et ce qui est surprenant...
Ouais, c'est moche, quoi.
Oui, bien sûr. Et ce qui est surprenant, c'est que, bon, à la limite, ils auraient pu dire... enfin, ce qu'ils disaient, c'était on aura des avertissements bien plus clairs dans les modèles de commercialisés, envoyés aux utilisateurs finaux, enfin aux clients, parce que là, mm-hmm. c'était des versions, entre guillemets, de test, qui étaient des versions finales, mais qui n'avaient pas le bon marquage, machin. Mais bon, ok, à la limite, admettons, mais ce qui est surprenant, c'est que cette fine couche, qui est vraiment un fine plastique minuscule, selon leur communiqué, fait partie de l'écran, et ils admettent, si vous l'enlevez, bah, l'écran marche plus. Et c'est pas juste qu'on se dit, ah, bah, il a une couleur bizarre, ou vraiment, il y a genre la moitié de l'écran qui marche plus. Il devient inutilisable. Et en plus
oui,
de
et
ça.
Vas-y. Ce qui est intéressant, c'est que les journalistes américains, eux, ils ont eu le droit de tester le smartphone seul. C'est-à-dire que ça se fait beaucoup avec les sites spécialisés, c'est qu'on leur envoie en fait par la poste les nouveaux modèles de smartphone et ils peuvent jouer avec pendant une semaine, quoi. Alors qu'en France, typiquement, nous au Figaro, alors ça va être mon cas, mais au Figaro, on a pu prendre en main le Galaxy Fold, mais cette prise en main a été faite avec des gens de Samsung qui étaient à côté de nous, qui nous ont expliqué du coup, bah effectivement, il y a cette couche, faut pas la retirer, etc. Mais ce qui veut dire qu'en fait, si on n'est pas superviser cette erreur, elle aurait pu être produite par les consommateurs. Et à la rigueur, heureusement que les problèmes interviennent maintenant.
Parce bien
que,
sûr.
Ben, t'imagines, Samsung aurait vendu toutes les préventes, qui sont déjà nombreuses, du Galaxy Fold, tous les consommateurs qui ont dépensé 2020 euros, c'est énorme, 2020 euros dans un smartphone, et qui se retrouvent tous à retirer sans doute la protection et du coup à faire planter le smartphone, quoi.
Et le pire, alors là, on a quatre journalistes qui ont eu le problème, je ne sais pas si tu as vu, mais la moitié avait le problème avec la couche retirée, mais il y avait une autre moitié, je crois que c'est le cas de Dieter Bonn de The Verge,
ouais.
Qui a eu un problème, oui, tu l'as vu, c'était même pas lié à cette couche retirée, c'était visiblement au niveau de la pliure de l'appareil, où il y avait une petite bosse qui s'était formée, alors on sait pas exactement pourquoi, il est possible qu'il y ait quelque chose, une poussière, quelque chose qui soit rentré sous l'écran, et au fur et à mesure des heures, on parle même pas de jours, l'écran s'est mis à de moins en moins bien fonctionner. Et pareil, au final, il était devenu inutilisable. Et il y a donc eu la moitié des journalistes, donc deux qui ont eu ce problème de fine plastique qu'ils ont retiré, pour lequel on peut se dire, bon, si on le fait pas, le truc marche bien. Ben, en fait, non, parce que deux autres ont eu une utilisation normale de l'appareil qui s'est aussi détériorée de manière significative. Et quand on voit 4, 5, 6 journalistes qui l'ont eu en test pendant une semaine, pour qui, au bout de 3 jours, alors on imagine qu'ils en ont envoyé plus, mais enfin, ils en ont envoyé combien, 15, 20, quelque chose comme ça, un quart ou un tiers des journalistes qui endommagent leur appareil avec une utilisation normale, s'il y en a un ou deux, tu dis, bon, c'est peut-être un cas isolé, machin, un tiers, ça aurait été, je sais pas combien ils en ont vendu, ils ont dit que les précommandes étaient déjà complètement pleines, donc s'il y en avait quelques centaines de milliers, imagine, ça aurait fait au moins, je sais pas, une centaine de milliers d'appareils inutilisables, c'était pire. Mais enfin bon, là, c'est quand même pas idéal non plus pour leur image. Après, et là, oui. On repense tout de suite au Note 7 qui explose, quoi.
Bien sûr, bien sûr, ouais. C'est ce que j'allais dire. Pour moi, c'est exactement la même chose que le Note 7. Alors, c'est moins dangereux que le Note 7 qui, quand même, était pris de combustion spontanée. Donc, ouais. C'était quand même un autre sujet. Mais on se rappelle du Note 7 qui était vachement attendu aussi. Hein. C'était pas la même prouesse technologique, mais le Note qui est une gamme chez Samsung qui est très populaire. Le Note 7 qui sortait enfin en Europe après plusieurs modèles qui nous étaient passés entre les doigts, etc. Samsung qui fait un grand lancement dithyrambique, etc. Et là, patatras, au bout d'une semaine, de deux semaines, les smartphones prennent feu, quoi. Et Samsung avait fait, à l'époque, avait fait un peu la même chose, c'est-à-dire qu'au départ, ils avaient un peu minimisé, sauf que finalement, ils ont été forcés de se remettre à l'évidence.
Alors, oui.
Ouais, ce qui s'était passé, c'est que Samsung avait d'abord récupéré certains smartphones, avait sorti une seconde version certifiée sûre,
je m'en souviens, ouais.
Et finalement, ces smartphones aussi ont pris feu. Donc finalement, Samsung a pris le parti de tout récupérer, quasiment tout. Je crois que c'est 97% de la production qui avait été récupérée. Alors bon, je leur souhaite pas la même chose pour le Galaxy Fold. Après le Galaxy Fold, encore une fois, il y a moins ce côté dangerosité, hein, parce que le Note 7, c'était quand même des incendies, on n'avait plus le droit de le prendre dans les avions. Il y avait une chambre d'hôtel en Australie qui avait pris feu. Enfin, bon, c'était quand même assez impressionnant, quoi. Mais
et c'est là que ça devient, parce que ils ont hyper bien récupéré. Moi, je pensais qu'ils auraient au moins un problème avec la marque Note après ces incidents. Ils ont hyper bien récupéré la chose. Finalement, ils ont sorti les notes suivantes. Ça s'est très bien passé. Mais ce genre de problème, ça devient vraiment problématique quand c'est récurrent. Et là, alors bien sûr, comme tu le dis, il l'a dit plusieurs fois, c'est pas aussi problématique que le Note 7 qui explose, mais c'est un petit peu, ils ont pas bien testé les choses, ils l'ont gardé secret pendant des mois, et visiblement, malgré leurs tests qui ouvrent et qui ferment le téléphone avec des machines 500 000 fois, ils l'ont pas mis dans les mains de vraies personnes, et donc ils sont pas rendus compte de ces différents problèmes, mais c'est une autre tâche sur la marque de Samsung, et oui, ouais. Tout le monde se souvient forcément du Note 7 aussi, et donc ça fait une de plus. Alors, toutes les marques ont des problèmes, et évidemment, tous les yeux se tournent vers Apple, eux aussi, ils ont eu des problèmes, mais qui, je crois, n'étaient pas aussi le Bendgate et le machin comme ça, c'était... Ou l'AntennaGate avec Steve Jobs qui disait « You're holding it wrong ». Bon, c'est vrai que dans certains cas, quand tu le tenais, machin, tu captais moins bien, tout ça, ok. Là... En deux jours, le tiers des journalistes qui a des problèmes avec, c'est beaucoup plus important. Et puis surtout, on avait vu d'autres téléphones pliables. On se souvient du Royal qui était un truc pas vraiment utilisable. Là, c'était le grand espoir de l'innovation du téléphone pliable qui était enfin là. Ils sont allés trop vite, quoi. J'ai l'impression que c'est
un peu le problème, ouais. C'est que là, on est face à un produit qui est propulsé vers le grand public beaucoup trop tôt, je pense. Alors déjà, parce que je pense que le grand public n'est pas encore prêt à mettre 2020 euros dans un smartphone pliable. Hein. Mais j'insiste sur le prix, mais parce qu'il est quand même très important. Et que je pense que... une innovation, elle est prête à être dans le grand public quand elle est utile pour le grand public. Je pense qu'il y a assez peu de personnes actuellement qui ont une envie impérieuse, entre guillemets, d'avoir un smartphone pliable. Alors après, le jeu
je
des constructeurs...
Je crois que le fantasme est séduisant, mais on n'a pas encore une preuve de l'utilisation concrète, quoi, du truc, de ce que ça va apporter aux utilisateurs.
Oui, mais c'est comme la reconnaissance faciale. Typiquement, le fait que maintenant on peut désactiver son iPhone avec de la reconnaissance faciale, ça, c'est une vraie innovation grand public, dans le sens où on a réussi à la mettre, mais Apple a travaillé des années dessus. Et là, je pense que le smartphone pliable, ça va peut-être marcher. Hein. C'est possible, mais je pense qu'il est beaucoup trop tôt. Mmh. Et alors après, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Hein. Je ne sais pas à quel point la tension entre Huawei et Samsung a pu jouer. Mais n'empêche qu'on s'est retrouvé dans une séquence médiatique super courte. Parce que entre l'annonce et la sortie, c'est passé à peine, même pas 6 mois, quoi. Enfin, même beaucoup moins, en fait, quelques mois. C'est peu, en fait, pour tester un produit, pour le tester en des conditions satisfaisantes. Et surtout que ce qui est gênant pour Samsung, c'est que justement, tu as raison, ils ont très très bien géré la crise du Note 7. Et ils ont pris le parti de faire de leur message marketing, on a changé. On a changé, nos tests maintenant, ils sont imparables, on a compris nos erreurs. Regardez à quel point nos tests de sécurité sont importants et sont efficaces. Là, ça la fout mal quand même, parce que visiblement, leurs tests, ils n'étaient pas bons.
Ouais, c'est quelque chose, et ça fait d'autant plus mal que c'était censé être la nouvelle évolution du format qui était une première version, mais une première version, on l'a dit d'ailleurs dans cette émission, qui semblait fonctionnelle, utilisable. Ensuite, est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que c'est trop cher? C'est une autre question, mais ça marchait. Alors qu'il y a 2 ans, on se disait ça marche pas. Et là, on se rend compte qu'il y a peut-être des ingénieurs dans d'autres sociétés qui étaient en train de tester ce type d'écran et qui se disaient, ah bah oui, mais pour ça et pour ça et pour ça, ça marche pas, ou pour ça, c'est trop fragile, ou pour ça. Et là, du coup, l'œuf est sur le visage de Samsung, quoi. Donc voilà pour cette histoire du Galaxy Fold. Donc, comme on l'a dit, il y a eu 2 problèmes. C'est pas uniquement la question du protecteur d'écran entre guillemets. Et donc, on se demande ce qui va se passer. Ils ont carrément annulé. Enfin, j'imagine que les téléphones, ils sont tous fabriqués, quoi. Le truc est censé sortir dans 3 jours. Maintenant, on enregistre le 23, c'est le 26, la date de sortie prévue d'origine. Les téléphones doivent être fabriqués, ils doivent être arrivés dans les magasins. Enfin, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont rajouter des je sais pas, faites attention quand vous l'ouvrez, mettez pas de mangez pas à côté parce que ça peut glisser une poussière sous l'écran, sous le mécanisme et poser des problèmes. Enfin, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais il doit y avoir des gens qui dorment pas chez Samsung là.
Ouais, c'est amusant parce que moi, je me dis que les constructeurs de tech oublient que leurs utilisateurs ont une vie en fait. Ouais. Typiquement, moi ça m'évoque, tu me parlais de la poussière, moi ça m'évoque le clavier papillon d'Apple là, qui ça fait 3-4 ans qu'on nous dit oui, mais c'est juste des poussières, faut faire attention, faut bien nettoyer son clavier. J'ai ben oui, mais les gens sont dégueulasses, hein, les gens mangent au-dessus de leur Mac, les gens emmènent sans doute leur Mac aux chiottes. Enfin, il faut aussi prendre en compte les aléas de la vie quoi.
Ouais, c'est un petit peu ça.
On va le plier plein de fois parce qu'on va vouloir se la péter et montrer à notre famille et à nos proches qu'on a un smartphone pliable et qu'ils ont ils ont intérêt à être robustes, quoi.
Ouais, c'est sûr. Bon, donc voilà pour le Galaxy Fold. Entre parenthèses, j'ai quelques jeux de mots gentiment prêtés par Jérôme Kainborg. Je pense que le titre de l'épisode sera « Samsung ferme son clapet ». Il était pas mal. Il y a aussi Galaxy Fold, le smartphone qui ne fait pas plaisir. Je l'ai trouvé bien aussi. Jérôme en a fait toute une tripotée sur Twitter et j'en ai volé quelques-uns. Donc, vous pouvez évidemment aller le suivre pour ces jeux de mots de grande qualité. Apple et Qualcomm. Alors ça, c'est un truc qui était, je suis complètement tombé des nues quand l'info est tombée il y a quelques jours. On en avait parlé bien sûr au début des procès entre Apple et Qualcomm. C'était quelque chose qu'on n'avait pas forcément suivi de très près parce que je vous avoue que les procès entre grands constructeurs, on en parle une fois, mais quand il y a les allers-retours devant les tribunaux, les jugements qui se répètent, j'attends généralement d'avoir la fin du procès pour pas vous embêter à chaque épisode avec le nouveau petit virage que prend le procès. Ceci dit, sans doute parmi tous les procès de l'industrie tech depuis ces dernières années, celui entre Apple et Qualcomm était le plus amer et le plus prompt à durer des années, voire des décennies. Enfin, c'est celui que je ne voyais pas disparaître. Le problème était que Qualcomm, qui fabrique des puces, et notamment des puces modem pour différents constructeurs de téléphones, imposait des royalties qu'Apple estimait trop élevées. Donc, ils se sont levés contre ce procédé et il est, étant donné que Qualcomm a des brevets spécifiques, ils sont les seuls à pouvoir utiliser ces procédés de fabrication et de, enfin, ces brevets. Et il y a des lois qui imposent le fait de pouvoir de donner une licence d'utilisation à des prix raisonnables pour l'industrie quand on est le possesseur d'un brevet aussi important. Et Apple disait Qualcomm ne respecte pas cette règle et donc procès. Le problème, c'est que Qualcomm était l'un des gros fournisseurs de puces d'antennes, enfin de puces 4G. Pour Apple, espérait avoir des puces 5G d'autres constructeurs, notamment de Intel. Ils avaient des puces 4G de chez Intel, d'ailleurs, depuis quelques modèles, et parce qu'ils étaient en procès violent avec Qualcomm. Et ça durait, et il y avait des échanges de documents hyper confidentiels, il y avait des le ton était vraiment monté entre les deux sociétés. Et là, il y a quelques jours, on se rend compte, enfin, on a l'annonce que ils ont enterré l'âge de guerre, les procès sont annulés, ils ont un accord sur 6 ans avec une, un paiement qu'Apple fait à Qualcomm. Et bien sûr, ma réaction tout de suite, ça a été « Ok, Apple a besoin de puces 5G, ils ont une équipe en interne qui développe des puces 5G, ils se sont rendus compte sans doute que ça n'allait pas être prêt à temps, ils ont... ils espéraient que Intel puisse leur fournir des puces 5G. Clairement, c'est beaucoup plus difficile à faire qu'ils ne le pensaient parce que ils ont dû entendre qu'Intel ne pouvait pas fournir. Et donc, ils se sont retournés vers Qualcomm et ils ont dit « Ok, vous voulez quoi ? Bon, bah, on vous paye parce qu'ils n'ont pas le choix. » Intel a d'ailleurs annoncé dans la foulée, genre 3 heures plus tard, « On arrête les puces 5G. » c'est quelque chose qu'on va arrêter
oui,
de faire.
Que... Et... C'est ce que j'allais dire, c'est qu'Intel est vraiment le dindon de la farce. Hein. C'est le fait. Enfin, moi, j'ai été surprise comme toi hein, que en plus ils ont eu un sens du timing assez dingue, c'est qu'ils ont annoncé ça le jour de l'ouverture du procès en fait. Tous les journalistes tech étaient prêts à suivre le truc et ils ont annoncé, en fait non, finalement on abandonne tout, on va travailler ensemble. Après, comme tu dis, moi je pense que ce qui a accéléré le processus, c'est l'urgence de la 5G. Dire le fait pour Apple de ne pas avoir d'iPhone qui soit équipé d'un modem 5G, ça devenait problématique alors que la concurrence est en train d'avancer de manière assez intense sur le sujet. Moi ce que je
trouve intéressant, c'est que... sachant qu'a priori ça sera évidemment pas l'iPhone de cette année aura un modem 5G, peut-être même pas celui de l'année prochaine, ça pourrait être 2021. Ils ont l'habitude chez Apple d'arriver un petit peu après tout le monde.
On n'est pas très au clair. Mais après, ce que cette affaire rappelle, c'est l'importance de l'industrie des microprocesseurs dans l'industrie de la tech. Et ça, c'est marrant parce que c'est un secteur qui est moins connu, bon, du grand public même en général, mais qui ont des acteurs, des acteurs comme Qualcomm, etc., et qui ont une importance. Et il y a une vraie guerre des puces en ce moment qui est livrée dans la tech. Il faut savoir que il y a beaucoup de boîtes, dont Apple, hein, qui investissent beaucoup dans la production de leurs propres puces. Apple a racheté, c'était l'année dernière, il me semble, un constructeur allemand de microprocesseurs, dont le nom m'échappe, là, mais ils ont mis 500 millions dans des usines. Amazon s'en est équipé aussi, Facebook s'est équipé aussi, Samsung a une division super lucrative de puces, Huawei aussi, enfin, ils veulent tous faire des puces. Après, parfois, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, et du coup, ils se tournent vers des acteurs qui sont ultra spécialisés, comme Qualcomm. Et d'ailleurs, le fait qu'Intel jette l'éponge, pour moi ça prouve que de nos jours dans cette industrie des microprocesseurs qui est quand même très très gourmande en capital et très très difficile c'est difficile de mener sa barque là-dedans, il faut être ultra spécialisé en fait. Et Qualcomm, quand on regarde, je lisais un article de je ne sais plus quel journal américain qui disait que en gros il y a des traces de discussion entre exécutifs d'Apple datant de ces derniers mois qui en on crier sur Qualcomm, critiquer Qualcomm en disant que c'était des méthodes de voyous, etc., etc. Mais en off disait oui, mais Qualcomm c'est les meilleurs. Qualcomm c'est vraiment ceux qui savent le mieux faire ces modems et on a besoin de leur techno. Et la preuve, c'est qu'Apple a fini par céder.
Complètement, oui. C'était une sorte de, enfin pas de secret de polichinelle, mais clairement les ingénieurs de chez Apple qui évaluaient les modems disaient oui, on peut selon certaines sources, il y a rien à faire, ils restent les meilleurs. Et là, le fait que Intel, avec toute son expertise, alors ils ont des problèmes sur les puces pour téléphone mobile, les puces à faible consommation et clairement les puces pour modem depuis longtemps. Et on peut même se demander si la chronologie est pas différente de ce qu'on a vu au niveau des annonces et que peut-être qu'Intel est allé voir Apple et leur a dit « Écoutez les gars, désolé, mais on n'y arrive pas. Donc, allez voir Qualcomm, essayez de vous mettre d'accord parce que nous, dans 3 jours, on annonce qu'on arrête parce que c'est juste qu'on n'y arrive pas. Donc, allez-y. Et nous, notre business 5G repose uniquement sur vous. Donc, de puces modem. Donc, si en plus vous retournez chez Qualcomm, on va s'arrêter. Moi, j'imagine que c'est Intel qui est allé voir Apple et ça, on le saura peut-être jamais, mais que c'est Intel qui est allé voir Apple et qui leur a dit... On ne veut pas vous laisser le nez dans l'eau, mais donc retournez voir Qualcomm, c'est...
Alors, ce qui est certain, c'est que c'est quand même un super mauvais signal pour Intel, qui est donc ce géant de l'informatique qui a complètement loupé le virage du mobile, qui a essayé de se rattraper justement avec la 5G, etc. Alors, Intel, ils ont d'autres œufs dans leur panier, hein. Je veux dire, c'est bon, je file les métaphores de Pâques avec les œufs. Intel a mis beaucoup sur l'intelligence artificielle, sur tout ce qui est puce de serveur, notamment. Ils essayent un peu de rattraper Nvidia, qui eux misent sur les GPU. Intel, ils misent sur les CPU, etc. Donc, ils ont quand même encore des cordes à leurs arcs, mais ils misent aussi beaucoup sur les objets connectés. Alors, je ne sais pas à quel point l'abandon de la 5G, des modems 5G, ça va impacter leur business sur les objets connectés, mais ça prouve que c'est pas si simple, quoi. C'est vraiment pas
C'est
si
vrai, ouais.
simple et ça demande énormément de recherche, ça demande énormément de capital et surtout face à un milieu de la tech, enfin un milieu du mobile où il y a quand même assez peu de fabricants, en fait, hein, c'est quand même peu de très très gros acteurs, l'abandon d'un acteur, ça tue un business, quoi. Ça tue vraiment
J'ai l'impression que si, peut-être qu'il y a des fabricants asiatiques qui font aussi des modems 5G, mais je crois que le principal, alors certainement Samsung est certainement sur le coup aussi, mais je crois que le principal c'est Qualcomm. Et l'abandon d'Intel, ça donne à Qualcomm comment dire, une force sur ce marché qui est peut-être même pas hyper saine, parce qu'ils sont presque le seul fournisseur, quoi.
Oui, c'est clair.
Ouais. Donc bon, je sais pas si les auditeurs vont vraiment comprendre à quel point c'était une news surprenante, parce que comme je disais, j'ai pas assommé les gens dans l'émission avec les vicissitudes de ce procès ou les turpitudes du procès ou d'autres mots en tude. mais c'était vraiment quelque chose qui a choqué toute l'industrie de la tech, quoi. Et bon. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, consommateurs finaux? Pas grand-chose. On aura des téléphones Apple qui auront des puces Qualcomm à l'intérieur au lieu de puces Intel à terme. Ceci dit, je suis sûr qu'ils sont encore en train de travailler sur leur puce modem 5G pour à terme remplacer les puces Qualcomm, mais ça va pas arriver tout de suite. Donc voilà pour nos deux sujets principaux, donc Galaxy Fold et Apple et Qualcomm. Avant de continuer, je voudrais prendre un tout petit instant pour vous redire que l'émission est financée par patreon.com/rdvtech et que si vous souscrivez à ce Patreon, et ben vous avez droit à au podcast privé des Patriotes, qui est un podcast auquel vous pouvez accéder uniquement si vous êtes Patriote. Et vous avez déjà eu le dernier positron en avance, et le prochain rendez-vous tech spécial, qui sera diffusé dans quelques temps, sur les enfants, la tech, les enfants et l'éducation, qu'on a enregistré avec Gaël, et qui est hyper intéressant. Même si vous n'avez pas d'enfants, je suis sûr que ça vous intéressera. Il arrivera la semaine prochaine sur le flux normal, mais si vous êtes patriote, vous avez déjà accès à cet épisode et à d'autres, et en plus aux éditos et à plein d'autres choses. Donc ce podcast privé a plein de trucs intéressants. Donc si vous pensez que l'émission est intéressante et que vous en voulez un petit peu plus, vous pouvez aller voir du côté du Patreon sur patreon.com/rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission. Et merci à vous tous, comme je le disais tout à l'heure. Plein d'autres petites news, d'autres petites news qu'on va détailler. Je voulais juste faire une toute petite mention de cet article de Bloomberg qui parle du fait que les gouvernements d'Asie du Sud-Est, comme le Vietnam, la Thaïlande et d'autres, sont en train de se mettre à la page du gouvernement chinois pour ce qui est de la gestion de l'Internet. Et alors, c'est déjà intéressant, voire préoccupant en soi, mais là où ça m'a paru particulièrement intéressant, c'est que ça semble conforter cette idée qu'il risque d'y avoir à terme trois grandes zones de l'Internet, c'est-à-dire les États-Unis, l'Europe, où il y a beaucoup de régulations, et ce qui était avant uniquement la Chine, mais qui risque d'être étendu à l'Asie du Sud-Est, avec un Internet beaucoup plus contrôlé, voire, on peut dire, je pense, censuré. Donc, c'est une chose qui me paraissait intéressante. Bon, au milieu de tout ça, il y a le fondateur de Foxconn, grande usine et fabricant de tout plein de choses, dont notamment les iPhones, qui se présente à la présidence de Taïwan. Donc, on a pris l'habitude de dire avec Zuckerberg que les grands pontes de la tech pensent qu'ils peuvent résoudre tous les problèmes et que généralement il se plante terriblement. Je ne sais pas si Terry Go réussira à résoudre les problèmes qu'il peut y avoir à Taïwan, mais en tout cas il se présente à la présidence. J'ai trouvé ça intéressant.
Peut-être qu'on peut attendre la candidature de Xavier Niel à la présidentielle.
C'est exactement ce à quoi j'ai pensé. C'est marrant, quand on pense à un grand de l'industrie tech en France, on pense tout de suite à Xavier Niel. Je me demande si Octave, c'est Calba ou Cabla ? Je sais jamais.
Klaba,
d'accord. Bon, ben, c'était ni l'un ni l'autre. Octave Klaba, qui est le fondateur d'OVH, serait pas quelqu'un de plus, comment dire, de plus adapté à ce type d'idée, parce qu'il a géré OVH comme un maître, et c'est une société qui a grandi énormément ces dernières années. Ils étaient à Roubaix, c'était un petit hébergeur. Moi, je les connais parce que je suis chez eux depuis longtemps, et c'était un petit hébergeur à l'époque qui fournissait de l'hébergement de site et de la connectivité, etc. Et ils ont grandi, ils sont dans plusieurs pays d'Europe, je crois même qu'ils sont aux États-Unis, peut-être que je dis une bêtise.
Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que Klaba vient de déménager aux États-Unis, en fait. Hein, maintenant qu'ils ont ouvert leur division américaine. Donc, pour la candidature, je pense qu'il faudra attendre un petit peu.
Qu'ils reviennent. En tout cas, entre les deux, je me demande si je ne donnerais pas plutôt les clés à Klaba qu'à Niel. Hein. Je ne sais pas, mais vu de loin comme ça, bon, on verra. Enfin, on verra, ou on verra pas. Je doute qu'il se présente où que ce soit. Mais...
c'est une exclue, Patrick Béja.
C'est ça, exactement, oui. Klaba versus Niel en 2022. 22 ou 23 ? 23. Oui, non, c'est ça. Hein. C'était 2017, l'élection présidentielle précédente. Parce que, bien sûr, il se présente direct à l'élection présidentielle. Il n'y a pas d'autre, d'autre formule. En même temps, je ne sais pas si tu as vu ce qui se passe en Ukraine, mais le comique qui a gagné l'élection, ça montre bien que tout peut arriver. Bref, en parlant d'élection, justement, c'est la transition toute trouvée avec ce TED Talk de Carole Cadwalader, c'est un nom welsh un petit peu bizarre, Cadwalader, qui est hyper intéressant, qui explique des choses dont on a beaucoup parlé dans l'émission, mais qui les résume de manière vraiment concise et dont je voulais parler très succinctement. On va parler de Google et de Microsoft juste après, mais c'est un TED Talk qui a été rendu public il y a quelques jours de ça, et elle parle du Brexit et de l'influence qu'ont eu des acteurs extérieurs sur le Brexit. Et elle, encore une fois, c'est pas des informations nouvelles, mais c'est des informations qui sont... Elle a une clarté. Vous savez, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et ben, elle l'énonce très, très bien. Donc, elle a vraiment enquêté sur la chose et elle comprend ces problématiques avec beaucoup de clairvoyance. Et je vais vous résumer un petit peu ce qu'elle dit. Elle dit que, en fait, le référendum du Brexit a pour une grande partie, eu lieu sur Facebook. Et l'un des gros problèmes qu'on a eu avec Facebook, c'est qu'il n'y a pas de suivi et il n'y a pas d'archives. Donc, il est impossible de savoir exactement qui a vu quoi, enfin, pas spécifiquement quelle personne, mais quel document était présenté. Et jusqu'à ce que le gouvernement anglais exige de Facebook qu'il rende public les publicités qui étaient affichées à ses utilisateurs, eh ben, on ne savait pas ce que les gens voyaient. Parce que les gens qui voient les publicités, c'est algorithmique, et donc ceux qui voient les trucs sont les seuls à les voir. Les autres personnes qui ne les voient pas, bah forcément, ne les voient pas. Donc on ne peut pas vraiment savoir ce qui est dit et ce qui s'y passe. Et donc les gens sont atteints en secret, en quelque sorte. Et ce qui a été... en fait, assez préoccupant, c'est que suite aux différents scandales, dont le scandale de Cambridge Analytica, on s'est rendu compte que les gens, et je continue, je dis les gens tout le temps, c'est en partie l'intervention du gouvernement russe et en partie les organismes de les organes politiques anglais qui ont identifié des gens qu'ils considéraient comme convaincables, qui pouvaient convaincre de certaines choses, en grande partie avec des mensonges ou des demi-vérités, des choses comme on va donner l'argent qu'on donne à l'Union européenne, on va le donner à la sécurité sociale, ou alors la Turquie va rentrer dans l'Europe, et ce genre de choses. Et donc il y avait une petite minorité de gens convaincables, entre guillemets, qu'ils ont identifié grâce à des choses comme les données de Cambridge Analytica. C'est-à-dire, quand on parle souvent des questions de données personnelles qui peuvent poser des problèmes, on a du mal à dire spécifiquement quel type de problème ça pourrait poser. Ça va pas être que la Stasi va débarquer chez vous et vous arrêter. Par contre, avec l'utilisation qu'a faite de ces données hein, une société comme Cambridge Analytica, ils ont pu cibler des gens qui étaient, comme je le disais, convaincables avec ce type de message. Et le gros problème, au-delà du fait que ces messages ciblaient des gens dont on ne... Enfin, sans qu'on sache qu'est-ce qui était dit à quoi, et c'est pas une question d'espionner tout ce qui se passe partout, mais c'est une question du fait que ça soit passé complètement en secret, et le problème du financement de ces campagnes, parce que ce qu'elle dit avec beaucoup de justesse, la raison pour laquelle les lois électorales ont été implémentées il y a quelques temps déjà, quelques dizaines d'années déjà, c'est qu'il y avait littéralement des gens qui allaient avec des brouettes d'argent, des sacs d'argent, devant les bureaux de vote pour acheter les votes des gens. Et ça, le financement des campagnes a été largement encadré pour éviter ce genre de choses. Et ce qui s'est passé sur Facebook, c'est qu'il y a des sommes d'argent monumentales qui ont été dépensées illégalement, parce que ça rentrait pas dans le cadre des lois et des règlements de financement des campagnes, sans qu'on sache d'où venait l'argent, qui finançait les montants, enfin qui finançait les campagnes, ce qu'étaient les campagnes, etc., etc. Et je parlais des lois sur la clarté du financement des pubs en période électorale, une loi qu'on a votée en France il y a quelque temps, et je sais qu'il y a des gens qui en riaient un petit peu à cause de l'incident avec Twitter. C'est ce genre de choses qu'il faut éviter. Et donc, il y a vraiment une action criminelle pour laquelle on n'avait pas les mots à l'époque, qui a été que les campagnes se sont passées avec un financement opaque, sur Facebook et en secret, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas rendu compte de la communication qui était faite en période électorale. Et elle a peut-être une vision qui exagère un tout petit peu la caractérisation de la chose, mais elle dit le problème, c'est qu'on peut pas avoir un débat démocratique dans ces conditions. Les élections ne sont plus libres et justes. C'est des élections qui sont manipulées. Et les réseaux sociaux, elle est très remontée contre les réseaux sociaux. Elle dit les réseaux sociaux sont complices de ces crimes, mais vraiment complice au sens juridique du terme. Et je crois qu'elle a un argument assez juste, et elle dit qu'il faudrait que Facebook débloque les archives, toutes les archives, pas juste ce qu'ils ont déjà donné un petit peu, les archives pour qu'on comprenne enfin ce qui s'est passé, pour que on puisse éviter que ça se reproduise. Et même si on pourrait dire, et je crois qu'on peut défendre l'argument de l'idée que ça n'a pas déterminé complètement les élections, ça a peut-être était un facteur, mais le résultat n'aurait pas forcément changé sans ces éléments. Je crois qu'il est juste de dire il faut quand même qu'on comprenne exactement ce qui s'est passé pour qu'on puisse l'étudier, qu'on puisse éviter que ça se reproduise si ça a vraiment eu une influence déterminante. Donc voilà, je voulais mentionner ce résumé parce qu'il m'avait paru assez juste.
Si je puis me permettre, moi, ça m'évoque la lecture d'un livre que j'ai lu récemment. C'est un roman qui s'appelle Le Parti de la Vérité, qui a été écrit par Damien Leloup. Je ne sais pas si les auditeurs connaissent, c'est l'ancien rédacteur en chef de Pixel, qui est la rubrique Nouvelles Technologies du Monde.fr. Et dans Le Parti de la Vérité, il imagine l'ascension, lors d'élections présidentielles françaises, d'un parti conspirationniste. Et qui justement dont la propagande se repose uniquement sur les outils en ligne. Et c'est super fin justement sur c'est une très très bonne description de comment on peut manipuler les réseaux sociaux et donc manipuler les gens via via ces outils qui sont non seulement malheureusement assez ignorés, mais en plus très très mal maîtrisés par la police, par les États, etc. Enfin, c'est un très bon roman et c'est une bonne introduction, je pense, à ce genre de principe. Donc c'est disponible, ça doit être disponible, c'est disponible en ligne, hein, c'est un e-book. Donc voilà, Le Parti de la Vérité, de Damien Leloup.
Damien Leloup, je le mettrai dans les notes de l'émission aussi.
Voilà.
Super. Donc voilà, pour ce petit détail, parlons maintenant un petit peu de Google. Google qui nous fait une Microsoft avec l'Union européenne. Il va y avoir, à partir de très bientôt, hein, dans quelques semaines, quand on lancera le Google Play Store sur un appareil Android, Google nous proposera 5 navigateurs à installer en plus des navigateurs déjà installés sur l'appareil et le choix du moteur de recherche par défaut de l'appareil. Et c'est suite à une amende et une demande de l'Union européenne, de la Commission de l'Union européenne. C'est Alors, on se souvient, je disais Microsoft parce qu'on a eu ce carrousel pour les navigateurs à l'époque de, d'Internet Explorer. On se souvient qu'Internet Explorer était un petit peu sur la fin et qu'il y avait déjà d'autres navigateurs qui commençaient à prendre le dessus. Donc, ça n'avait pas eu beaucoup d'effet. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette nouvelle
Moi, je trouve ça bien. Honnêtement, je trouve ça bien. Je trouve que ça correspond aux critiques de la Commission européenne qui étaient justifiées. Hein. Donc, en gros, pour rappeler, mais très, très rapidement, la Commission européenne donc, a lancé une série d'enquêtes pour pratiques anticoncurrentielles sur Google. Et le volet Android, en fait, acculé Google sur plusieurs points. Alors, il faut savoir qu'Android, si, pour ceux qui ne savent pas, donc, c'est le système d'exploitation mobile le plus répandu dans le monde, hein, c'est 80% des smartphones actuellement. C'est un système d'exploitation qui est gratuit, c'est-à-dire que un Huawei, un Samsung, etc. peut le prendre gratuitement pour le mettre sur son smartphone. En revanche, c'est gratuit monétairement, on va dire, mais par contre c'est payant par d'autres biais. Et donc l'un de ces biais qui avait été critiqué par la Commission européenne, c'est que pour disposer de Google Play, donc qui est la boutique d'applications de Google pour les applications Android, il fallait préinstaller sur le smartphone des utilisateurs à la fois Google, le moteur de recherche, et Chrome, donc le navigateur Internet. Google disait, oui, mais c'est un choix, s'ils ne veulent pas la boutique d'application, ils peuvent très bien ne pas installer Google et Chrome. Sauf que le problème, c'est que c'est pas vraiment un choix, puisqu'il n'existe quasiment aucune autre boutique d'application disponible sur le marché. Donc vous imaginez acheter un smartphone qui non seulement n'a pas les applications Google, machin, mais en plus, on n'a même pas un moyen d'acheter les applications. Enfin, c'est juste impensable. Donc, la parade a été trouvée de faciliter, on va dire, le choix des internautes en proposant sur le Google, sur le Play Store, effectivement, un large choix de navigateurs et de moteurs de recherche. Alors, Google dit que ce choix sera détaillé de manière...
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Algorithmique, c'est-à-dire que en théorie les moteurs de recherche les plus populaires dans Google Play remonteront automatiquement parce qu'il y a 5 slots, ce qui est pas beaucoup. Il y a quand même pas mal de moteurs de recherche alternatifs. Donc typiquement, moi j'avais reçu les captures d'écran de l'outil. Il y a Quant, les Français de Quant, qui sont plutôt en bonne position. Donc, après, faut voir si ça va vraiment avoir un effet, hein, sur, parce que contrairement à Internet Explorer à son époque, Google et Chrome sont loin d'être en perte de vitesse. Hein, c'est des outils qui sont extrêmement populaires. À juste titre, oui et non. Oui, à juste titre, parce que ce sont d'excellents outils. Hein, on peut pas dire le contraire. Hein, les recherches Google sont excellentes. Chrome est un navigateur Internet qui fonctionne très bien. Et, sauf que la raison pour laquelle ils sont aussi excellents, c'est aussi parce que Google, pendant des années, a bénéficié de cette ultra-domination en écrasant tous les concurrents et du coup n'a pas trop laissé l'occasion à leurs concurrents de se développer. C'est compliqué, hein, de lancer un moteur de recherche ou un navigateur Internet digne de ce nom aujourd'hui parce que ça demande de la thune. Et puis ça demande de croire un peu en sa bonne étoile, quoi, hein, parce que pour réussir à rivaliser avec Google Chrome, il faut y aller, quoi. Alors il y a encore des alternatives, Firefox, hein, notamment, qui arrive à tenir, et encore Firefox, il y a 5-10 ans, c'était quand même beaucoup plus important que Firefox aujourd'hui. Ouais. Ils se sont fait laminer par Chrome.
Et d'ailleurs, on a récemment vu des critiques envers Chrome de la part des ingénieurs de Mozilla qui disaient, comme par hasard, il y avait des trucs qui marchaient sur Chrome qui marchaient pas sur Firefox, et ça s'est reproduit à de nombreuses reprises, et du coup, forcément, c'était... ils respectaient pas les standards du web et forcément ça nous causait des torts. Donc oui, tout n'est pas complètement clean dans toute cette histoire, quoi.
Non, et puis donc je pense que l'option est bonne, je pense qu'elle arrive beaucoup trop tard. C'est clair que Google aurait fait ça il y a 5 ans, je pense que ça aurait été une autre histoire. Alors, on va pas être pessimiste, hein, c'est tant mieux qu'on ait un choix, mais c'est compliqué de lutter contre des habitudes. Et quand ces habitudes ont été façonnées par des années et des années d'automatisme et poussées par des logiciels, bah c'est compliqué, quoi.
C'est sûr. Ouais, donc bon. Voilà, en tout cas, c'est bien de les voir, comment dire, se plier aux demandes de l'Union européenne, et ça prouve
ils n'ont pas le choix. Hein.
Non, c'est ça, mais ce qu'ils disent en permanence quand on propose des lois, c'est que, tu vois, ils brandissent la menace de, bah non, on va partir, ou non, c'est pas possible techniquement, ou bon, là, sur ce cas spécifique, c'est clairement possible techniquement, mais ça commence à arriver de plus en plus. C'était pas forcément le cas il y a encore quelques années, parce que on se disait, mais non, on peut pas, quoi, ou alors on n'a pas le droit, ou c'est pas juste, ou c'est pas, tu vois, il y avait plein de peut-être qui étaient juste dans notre esprit, mais là on se rend compte que si, c'est tout à fait possible et ça se passe. Et le pire, c'est qu'on n'est même pas sûr que même ça ait de l'effet. Donc dans certains cas, oui, il y a aussi des choix qui sont discutables, mais dans certains cas, en tout cas par certains aspects, ça n'a pas les conséquences que on pourrait craindre ou que certains nous disent. Et parfois, si, ça a effectivement ces conséquences-là. Donc, c'est difficile de démêler tout ça. Passons un petit peu du côté d'Apple, tiens. Il y a plein de leaks qui commencent à arriver sur les prochaines versions de iOS et de macOS. Alors, je vais vous éviter l'essentiel parce qu'il y a plein de choses qui sont des rumeurs et qui sont pas forcément hyper intéressantes. Et puis, on aura plein d'infos à la WWDC en juin. Donc, on pourra en parler à ce moment. Juste quelques-unes qui sont intéressantes. Sur iOS 13, il semblerait qu'il y ait pour iPad des nouveaux éléments de multitâche et de multifenêtrage, avec des morceaux d'app qui pourraient se balader en fenêtres au-dessus des autres, ou des apps divisées en plusieurs fenêtres. Donc pousser l'iPad encore vers l'utilisation professionnelle, entre guillemets, ce qui m'a paru intéressant. Et sur macOS, la possibilité d'utiliser un iPad comme écran externe. Alors, il y a des apps qui font déjà ça, mais bien sûr, quand c'est Apple qui l'intègre à son système, c'est sans doute un petit peu mieux mis en place. Donc ça, c'est intéressant. Autre petite news que je passe comme ça, il semblerait qu'Apple soit le plus gros client de AWS, donc de Amazon. Il dépenserait 30 millions de dollars par mois pour stocker leurs données. Bien sûr, les données sont chiffrées, hein, donc ça reste des données qui appartiennent à Apple et qui sont avec les standards d'Apple, mais ils dépensent aujourd'hui 30 millions de dollars par mois sur AWS. Donc c'est marrant de voir que, encore une fois, derrière les batailles d'apparence, ils travaillent beaucoup ensemble, tous ces grands géants de la tech. Et puis, bah, un autre truc qui me paraissait amusant, c'est que encore un grand fabricant est en train de faire un AirPod-like, et je me souviens, il y a 2 ans, des rires que m'avaient tiré ces AirPods qui avaient l'air complètement ridicules dans les oreilles, qui ressemblaient à des sortes de boucles d'oreilles, et rires que j'ai ravalés quand j'ai eu les miens entre les mains et dans les oreilles, parce que j'ai crié au monde que c'était la plus belle innovation d'Apple depuis, depuis l'iPad. C'est vraiment un design incroyable. Et entre-temps, tous les fabricants se sont mis à en faire, et Microsoft est le dernier dans la liste. Enfin, c'est une rumeur en tout cas. Ils auraient un produit qui s'appelle Morrison, qui est donc en fait les AirPods de Microsoft. C'est pas si surprenant.
Non, alors moi je suis vraiment très très surprise, enfin très surprise, assez hallucinée par le succès des AirPods. Pour moi, Apple, ils ont réussi à reproduire ce qu'ils avaient fait avec les fameux écouteurs blancs. Si tu vois ce à quoi je fais référence, Patrick.
Oui.
Mais Apple, quand on regarde l'histoire d'Apple, l'un des coups de génie d'Apple, c'était que avec les iPods, à la grande époque des iPods, il a commencé à produire des écouteurs blancs qui étaient fournis avec les iPods pour écouter de la musique. Et ça, en faisant sans le pari, parce qu'à l'époque, les il y avait très peu d'écouteurs blancs, enfin, ça se
faisait
pas, c'était
tous
pas une couleur normale pour les écouteurs, ils étaient tous noirs. Et le pari d'Apple, c'est de dire oui, mais du coup, quand tu verras une personne avec des écouteurs blancs dans les oreilles, tu sauras que cette personne a les moyens de s'acheter un iPod et ensuite un iPhone, parce qu'ils ont reproduit ça dans les iPhones, et donc il fait partie de la tribu Apple, entre guillemets. Et ça, ça a marché, mais du feu de Dieu d'ailleurs. D'ailleurs, maintenant, les écouteurs, les écouteurs blancs, c'est pas rare du tout, hein. Plein de marques ont copié ce principe. Et pour moi, avec les AirPods, c'est exactement la même chose. C'est que avoir des AirPods, c'est une sorte de marqueur social, quoi. Alors pas seulement en termes de thunes, parce que bon, c'est vrai qu'il faut rappeler que les AirPods c'est quand même pas gratuit, mais aussi en termes de je suis une personne qui a des AirPods qui sont un truc très innovant, qui sont assez différents, etc.
J'affirme mon individualité en ayant les mêmes AirPods que tout le monde autour de moi un petit peu.
Oui, alors après, c'est vrai que, enfin, tu le dis, hein, ce sont des écouteurs qui sont excellents, hein, qui la techno est super, le son est très bien.
Des écouteurs d'audiophile, on va dire, mais ils sont super pratiques, ils sont le fait que ça soit sans fil, c'est le design est bon, quoi.
Oui, le design est bon et je pense vraiment que on a affaire à la fois une très bonne opération marketing et un très bon objet tech, quoi. Donc ça m'étonne pas du tout que tous les constructeurs fassent la queue leu leu les uns après les autres pour essayer de les imiter.
C'est vraiment tu le mentionnais.
Moi,
le fait que pardon, vas-y finis, excuse-moi.
Non, j'allais dire que moi j'ai trouvé toujours moche. Je suis désolée.
Ah bah ils sont moches, ça c'est sûr. Mais c'est presque bon, j'ai fini par m'y habituer et puis je les vois tellement autour de moi. C'est tu peux pas rire à gorge déployée devant chaque personne que tu vois pendant 3 ans, quoi. Au bout d'un moment, tu finis par t'habituer. Et puis c'est pas très poli. Mais oui, moi j'ai fini par m'habituer aussi. Mais je suis d'accord qu'ils sont quand même moches. Ceci dit. Tu parles de marqueur social et c'est très vrai. Et moi, j'ai été hyper surpris de voir la quantité de gens de milieux très différents, enfin de quartiers et de milieux différents qui ont des AirPods. Moi, je suis dans différents endroits, dans Paris, en Finlande, quand je voyage, et je vois des AirPods partout. Mais partout, je me suis dit, à 179, 180 euros, c'est quand même pas un truc que tout le monde peut se permettre. Et je pense qu'il y a des gens qui font des efforts sur leurs achats tech et qui se disent, bah, plutôt que de changer de téléphone, du coup, c'est presque, plutôt que de changer de téléphone cette année, je vais acheter un AirPod et je vais économiser un petit peu d'argent parce que le téléphone aurait coûté plus cher. Je sais pas si c'est ce genre de calculs qui sont faits, mais c'est vrai que j'en vois partout et j'ai été très surpris, quoi. Bon, puisqu'on parle d'Apple, on va continuer avec un dernier sujet qui est la machine à recycler d'Apple sur laquelle ils ont fait une petite opération de com en disant qu'ils espèrent que une petite
entre guillemets.
Vas-y, dis-nous tout. En fait, c'est ce qu'ils disent, c'est on espère que d'autres vont être inspirés par notre machine à recycler et on va partager notre savoir. Je suis un petit peu ironique, mais a priori ils sont peut-être sincère, mais dis-nous un petit peu de quoi il s'agit.
Oui, donc Apple en fait dispose, ça fait un an qu'on est au courant, hein, que cette machine a été dévoilée, dispose de deux modèles d'une machine qui s'appelle Daisy, c'est ça ? J'oublie
c'est
le nom
ça,
à chaque fois.
Daisy, ouais.
Daisy, voilà.
Ils avaient donc, d'autres Daisy, modèles avant, mais qui faisaient moins de téléphones, et Daisy c'est la dernière qui existe, je crois, depuis un an, quelque chose comme ça.
Voilà, et Daisy, donc elle est capable en fait de recycler des iPhones, de quasiment de bout en bout, c'est-à-dire qu'on met l'iPhone, et elle est capable de démembrer l'iPhone, récupérer les composants qui doivent être récupérés, etc., etc. Donc c'est des machines qui coûtent très très cher, hein, qui sont très grosses. Donc il y en a deux actuellement dans le monde, qui sont toutes les deux aux États-Unis, si je me trompe pas. Apple en fait a publié la semaine dernière son rapport annuel environnemental. Ça fait quelques années qu'Apple en fait a pris un peu le parti de d'assumer un message marketing autour de la green tech, en gros, en disant que en gros ils faisaient mieux que les autres, ils étaient plus écolo que les autres, et de montrer un petit peu leurs efforts pour réduire l'impact environnemental de ces produits, donc non seulement en misant sur le recyclage, en mettant en place des opérations de recyclage dans ces magasins, etc. Et de aussi éviter le plus possible l'exploitation de minerais, ce qu'on appelle les minerais de sang, c'est-à-dire que les minerais dont on a besoin en fait pour faire des composants de smartphones et qui sont dans des zones de guerre et qui du coup font l'objet de pratiques pas éthiques du tout. Alors je pense que c'est bien intentionné, aussi bien intentionné que peut l'être une opération d'une entreprise. entreprise, hein. On reste dans le business, mais je pense qu'Apple effectivement a fait des vrais efforts de transparence sur le sujet, ce qui n'est pas le cas de tous les fabricants. Après, Apple c'est aussi une boîte qui chaque année vous incite à acheter un nouveau smartphone. Et ça, c'est pas écolo en fait. Et c'est vrai que c'est compliqué pour Apple de trouver cet équilibre entre on veut être une boîte plus verte, mais en même temps, on veut aussi vous inciter à vous équiper de tous les derniers smartphones, de tous les derniers appareils, etc. Et plus de personnes achètent d'iPhone, mieux c'est, quoi. On est quand même assez loin du principe, typiquement, il y a une boîte qui est danoise, il me semble, qui s'appelle Fairphone, qui eux font vraiment des smartphones entièrement recyclables, c'est-à-dire qu'on peut changer tous les composants, on peut ouvrir la machine, etc. Je sais pas si tu te souviens, Patrick, de la dernière fois que t'as pu ouvrir ton smartphone. Mais moi, je pense que ça fait facilement 6 ans. Hein.
C'est
6,
sûr, oui. Ah, bah oui, bah, de toute façon, les iPhones, on n'a jamais pu les ouvrir. Peut-être que j'en ai ouvert un il y a très, très, très longtemps, mais oui, on est allé vers des designs beaucoup plus compacts.
Voilà. Moi, j'ai toujours été sous Android, et pour le coup, sous Android, il y en avait qu'on pouvait ouvrir, mais je pense que mon premier smartphone, j'ai pu l'ouvrir, mon second peut-être, mais là, ça fait des années, je ne peux plus y toucher, quoi. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, c'est très bien, hein, que Apple
mette
en place
des applis pour... Excuse-moi, je t'interromps, mais je ne sais pas si le fait de pouvoir les ouvrir en tant que consommateur final, alors oui, ça pourrait nous permettre de changer les batteries, mais du coup, on consommerait plus de batteries peut-être, et on peut faire changer la batterie des téléphones qui sont fermés, en tout cas du côté de chez Apple. Je ne sais pas si ça ferait qu'ils seraient plus verts, tu vois, le fait de pouvoir les ouvrir.
Tu augmentes la durée de vie d'un appareil, tu es plus écologique parce que tu ne te débarrasses pas de ton appareil, parce que du coup, tu n'as pas. C'est tout con, hein, mais quand tu achètes un nouveau smartphone, bah, non seulement tu achètes un nouveau smartphone, donc ça veut dire qu'il a été produit, donc tu as toute la chaîne de production qui est responsable de cet appareil, il a été distribué, il a été emballé. On n'y pense pas, quoi.
Je me fais un petit peu l'avocat du diable, du coup, Lucie, mais dans ce cas-là, si le fait de ne pas avoir à remplacer son téléphone est un marqueur d'écologie, je pourrais arguer du fait que parmi tous les constructeurs de téléphones, et c'est une chose dont on discute souvent dans l'émission, Apple est sans doute celui qui fait le suivi de ses téléphones sur le plus long terme. Alors oui, ils essayent de t'en vendre aussi, mais tu vas pouvoir utiliser un téléphone de marque Apple sur, allez, facilement 4, 5, 6 ans, avec des mises à jour régulières et une sécurité qui est soutenu, alors que des téléphones comme, même si on va pas chercher très loin, chez Samsung ou d'autres, bah là, au bout de 2-3 ans, t'as plus de mise à jour, tu sais pas si ton appareil est plein de trous de sécurité, etc. Donc, je pense qu'il y a...
C'est clair, je le nie pas du tout. Je dis pas que les autres sont mieux. Je dis qu'ils sont tous mauvais et qu'Apple est un peu moins mauvais que les autres. Mais que quand même, c'est aussi mon parti pris. Et c'est compliqué de faire de l'écologie dans la tech parce que la tech, c'est une industrie qui te vend des choses. Hein. C'est normal, c'est comme ça. Alors après, il y a des manières d'améliorer les process.
Très tourné vers l'innovation et le renouvellement. C'est l'un des caractéristiques de la tech, c'est sûr.
Exactement, c'est de se dire que bah il me faut le nouveau smartphone parce que j'aurai les nouveaux, j'aurai les derniers composants, etc. Donc je suis très contente qu'Apple se soit lancé dans ce truc-là et c'est bien qu'il y en ait un qui monte la voie. Après, voir des articles qui disent que Apple est une entreprise écologique, ça par contre je suis pas d'accord, c'est pas vrai. Par contre, Apple est une entreprise plus transparente et qui fait des efforts. Et ça c'est ça on peut se retrouver là.
et du coup, qu'est-ce que tu penses de cette idée qui est là encore un message marketing très pratique? Qu'avec cette technologie de l'appareil Daisy qui recycle donc entièrement leur téléphone, la raison pour laquelle ils ont fait cette communication aujourd'hui, en partie bien sûr, c'est de dire aux autres constructeurs, venez nous voir, on va vous expliquer comment on a construit ça et peut-être que vous pourrez faire la même chose pour vos appareils à vous. Et du coup, parce que même avec deux machines, ils en recyclent de beaucoup, 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 c'est je sais plus 500 par heure, un truc comme ça, des téléphones. Et donc, c'est une vraie option de recyclage et ils disent venez nous voir, peut-être que vous aussi vous pourriez faire pareil. Alors bien sûr c'est un message pratique, mais est-ce que c'est complètement du greenwashing ou est-ce que tu y crois un peu ou qu'est-ce que t'en penses?
Non, je pense pas que ce soit en soi du greenwashing. Après je pense que ce genre de sujet de société, il faut que le grand public le porte pour que les fabricants s'y mettent, en gros. On a vu ce move sur la vie privée, typiquement. Le fait que de plus en plus de constructeurs proposent des options de chiffrement, qu'il y ait des applications de chiffrement, etc. Apple, évidemment, est le numéro un sur ce sujet avec ses iPhones chiffrés de bout en bout, etc. Ça, c'est parce que il y a eu une vraie inquiétude dans le grand public et une vraie demande du grand public de récupérer un peu de souveraineté, on va dire, sur les données qu'on produit via nos smartphones. Je suis pas sûre, malheureusement, que mon père, ma tante ou même mes amis en aient soient autant inquiets sur l'impact écologique de nos smartphones. Et je pense que le jour où ce sujet commencera à vraiment prendre, entre guillemets, là, oui, je pense que les fabricants pourraient s'y mettre. Et je pense effectivement le fait qu'Apple fasse cette proposition pourrait contribuer à ce mouvement général. Moi, ça me rappelle, je ne sais pas si tu te souviens, c'était il y a un ou deux ans, il me semble, le reportage de Cache Investigation sur les smartphones, sur la manière dont étaient faits nos smartphones. C'était un reportage qui avait été diffusé ou qui expliquait justement non seulement l'impact écologique, mais aussi sur tout ce qui était exploitation de minerais, etc. Et ce reportage avait fait un scandale pas possible en France. Et justement, il y avait eu beaucoup de demandes, moi je l'ai vu hein, au niveau de mon lectorat typiquement, de smartphones alternatifs. Et c'est là qu'on avait été amené à parler de Fairphone et ce genre d'initiative. Sauf que bah, après, c'est un peu retombé parce qu'on est passé à autre chose. Donc, mais c'est possible. Je pense que les gens sont convaincus du fait qu'il faut qu'on pollue moins, etc. Il faut juste qu'ils s'en souviennent. Et qu'ils s'en souviennent quand ils vont acheter leur ouais. téléphone.
Et toi, ça te préoccupe du coup cette question ?
Bah, ça me préoccupe après.
Mais du coup,
c'est
exactement, je te tends un piège du coup, Lucie. Est-ce que toi, t'as un Fairphone ?
Alors, j'ai eu un Fairphone, figure-toi. Ah, c'était mon dernier smartphone que j'ai remplacé il y a deux ans par un OnePlus. Parce que, en fait, malheureusement, en tant que journaliste tech, j'avais besoin d'un smartphone qui était performant et que les Fairphone, c'est pas le cas.
Ouais.
Malheureusement, moi, le modèle de Fairphone que j'avais à l'époque, qui était le Fairphone 2, était pas assez performant. Après, je pense que le Fairphone, c'est un très bon smartphone pour une personne qui utilise pas énormément. Enfin, c'est pas un bon smartphone pour des ados, typiquement. Par contre, pour nous,
ça va pas, clairement.
Non, pas pour nous. Pour nous, clairement, ça va pas. Par contre, pour nos parents, oui. Je pense qu'après, ça dépend. Si vous avez des parents geeks, c'est différent. Mais pour une utilisation modérée du téléphone, honnêtement, ça fait le taf. Il n'y a pas de souci. Mais je pense que voilà, malheureusement, Fairphone, c'est une petite boîte. Ils n'ont pas trop les moyens de. Donc, c'est pour ça, et là, je vais te donner raison, qu'effectivement, c'est plutôt enthousiasmant de voir qu'Apple, qui est le premier producteur, l'un des plus gros acteurs du mobile dans le monde, incorpore dans son marketing ce genre de message. Et peut-être que ça finira par rentrer et que ça finira par. Mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué.
Ouais,
après, c'est vrai que mon smartphone, je le change pas tous les ans.
Ouais, oui. Bon, votez vert aux prochaines élections, on va dire ça. Tiens, justement, question de vie privée. Le gouvernement a développé une application qui s'appelle Chap, T-C-H-A-P, pour remplacer les applications de communication qu'ils utilisaient jusqu'à maintenant. Alors, c'est des communications en message direct, des trucs type Telegram. Visiblement, de nombreux membres du gouvernement, des gouvernements utilisaient des applications comme Telegram ou peut-être même WhatsApp pour communiquer entre eux. Ils ont désormais une application dédiée. Il faut avoir une adresse d'un site du gouvernement pour pouvoir y accéder. Elle s'appelle Chap. Alors, c'est pas une application pour qui est hyper méga sécurisée. Genre, c'est pas pour échanger des éléments secrets défense. C'est vraiment pour communiquer entre membres du gouvernement. De manière à ce qu'il n'y ait pas l'œil de Zuckerberg sur ce que vous faites. Je dis Zuckerberg au hasard. Et ça me paraît pas mal. Alors, il y a quelques failles qui ont été détectées, qui ont été patchées. Il y a un bug bounty qui a été lancé sur l'application. Le code est accessible, c'est ouvert. Moi, ça me paraît bien. Évidemment, on peut en rire un peu, mais c'est une bonne chose, non ?
Non, c'est une très bonne initiative, je pense. On en revient à ce qu'on disait sur le smartphone pliable tout à l'heure. Toujours penser au grand public, toujours à penser à qui va utiliser ces produits et comment. Le problème de l'État au sens global, hein, donc des communautés territoriales, des ministères, etc., c'est que c'est plein de personnes qui n'ont pas envie de s'emmerder à utiliser un smartphone ultra sécurisé, comme ceux que font Thales, par exemple. Ça existe, hein, les smartphones qui sont chiffrés, il faut mettre un code à chaque fois que tu t'envoies un message, etc. Oui. Alors ça,
enfin,
c'est utilisé évidemment pour les...
On va pas en mettre un dans les mains de chaque conseiller municipal, quoi.
Non, bien sûr. Mais le problème, c'est que du coup, on se retrouvait face à des employés de l'État qui utilisaient Telegram, qui, il faut le rappeler, n'est pas une application chiffrée. Il y a une option de chiffrement qui est disponible sur Telegram, mais Telegram de base n'est pas chiffré. Ça faut vraiment le rappeler parce que
ouais, et puis
ça
leur...
a du mal à. Ça...
Et leur code n'est pas open source, on ne sait pas exactement ce qu'ils font,
voilà,
c'est pas Signal. Signal est plus sécurisé, voilà. Telegram est moins sécurisé. Ouais.
Voilà, Signal, c'est très bien. WhatsApp, malheureusement, ça appartient à Facebook. Donc, même si c'est chiffré, il faut quand même savoir qu'un certain nombre de données va chez Facebook, etc. Donc, ça, c'est quand même pas tip-top. Donc, moi, je trouve que la France développe sur des outils open source une application disponible pour ses employés en disant, ben voilà, vous n'aurez pas accès à un smartphone ultra sécurisé, mais quand même, on va vous donner un certain niveau de sécurité. C'est très bien. Et ça, c'est la base de la cybersécurité, c'est d'identifier les menaces et les outils auxquels on a accès. Si moi, je suis, je sais pas moi, un employé de mairie, c'est clair que j'ai quand même assez peu de chances de me faire cibler par des méchants hackers russes, chinois, nord-coréens ou je ne sais quelle nationalité. Mais néanmoins, je peux. Donc, a priori, il y a pas de justification à ce qu'on me prête un smartphone à 2000 euros qui n'est pas pliable, mais qui lui est sécurisé. néanmoins, ça peut avoir un certain intérêt de me donner une application que je peux télécharger sur mon smartphone Android, sur mon iPhone, pour discuter de manière sécurisée. Donc, moi, je trouve ça très bien. Alors, malheureusement, ça a été lancé un peu vite. Et c'est clair que une faille a été découverte en moins de 24 heures et c'est quand même une faille assez grosse parce qu'elle permettait de s'inscrire même si on n'avait pas de mail du gouvernement. Donc bon, ça a été patché. Moi, je souhaite vraiment que cette initiative réussisse parce que je pense qu'elle est bonne.
Ouais, et puis qu'on en ait d'autres. Moi, je pense que c'est effectivement une... Bon, alors là, ça colle complètement. Mais oui, ne serait-ce que pour une question de souveraineté, ça me gênerait que un outil utilisé par l'administration au quotidien, par toutes les administrations dans le pays, soit géré par une société enfin américaine ou autre, ou même une société française à la limite. Ça, c'est le genre de truc qui est bonne à développer pour le gouvernement. Et le fait qu'il soit en open source, qu'ils aient un bug bounty, c'est exactement ce qu'il faut faire pour découvrir les failles et qu'ils soient aussi sécurisés que possible. Donc, bien joué. Jack Dorsey a dit qu'il voulait changer Twitter, changer l'orientation de Twitter et l'orienter moins vers l'idée de suivre des gens, mais plus vers l'idée de suivre des sujets. Et c'est bien sûr une réponse au problème récurrent et permanent qu'a Twitter et qui est un changement assez radical. Ça me fait, moi qui suis un grand utilisateur de Twitter, ça me fait presque un peu peur, même si je sais qu'il y a de gros problèmes sur Twitter. Est-ce que c'est un signe du désespoir qu'a Jack Dorsey de ne pas réussir à régler les problèmes de Twitter ou qu'est-ce que tu en penses? Ça pourrait être une orientation intéressante?
C'est compliqué pour Twitter hein, parce qu'ils sont confrontés aux mêmes problèmes que n'importe quelle autre grosse plateforme, notamment sur la modération. Hein, Twitter, il y a quand même un gros sujet de modération sur le cyberharcèlement, sur la haine en ligne, etc., qui se pose. Sauf que Twitter, il a deux problèmes. C'est que, un, Twitter, c'est une plateforme publique, ce qui n'est pas le cas de Facebook, ou typiquement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de personnes qui peuvent y parler avec des pseudos, etc. Donc, il y a quand même une masse de messages à traiter qui est très importante. Et par ailleurs, Twitter n'a pas les moyens de Google et Facebook. Et ça, on a tendance à l'oublier. C'est que, alors déjà, Facebook et Google, certes, ont embauché des modérateurs, mais ont quand même mis du temps. Et là, Facebook, actuellement, c'est 30 000 personnes qui travaillent sur la modération, dont 15 000 des modérateurs. Twitter, de ce qu'on sait, c'est au mieux plusieurs centaines, pas plus. Donc c'est clair qu'ils ont des énormes problèmes de modération qu'ils régleront pas comme ça. Donc je pense qu'en désespoir de cause, effectivement, ils essayent de changer la philosophie et de passer par un changement de philosophie et de manière de présentation et etc. Je sais pas si ça a marché honnêtement. Twitter est dans la panade depuis quand même pas mal d'années maintenant. Au moins ils parlent du problème. C'est déjà ça. Je sais pas. Honnêtement, moi j'aime beaucoup Twitter aussi. Après, j'ai aussi conscience que je représente pas une portion représentative de la population en général. Mais c'est clair que Twitter va devoir changer quelque chose. Et surtout que Twitter, c'est une entreprise qui va pas très très bien non plus. Alors, leur nombre d'utilisateurs n'augmente plus. Et ça fait plusieurs trimestres que c'est le cas. Donc si en plus ces utilisateurs, notamment utilisatrices, hein, parce que c'est vraiment un problème qui touche beaucoup les femmes sur Internet, se font cyberharceler à tout bout de champ, ils risquent en plus de perdre des utilisateurs. Donc,
donc
un changement est nécessaire. Alors lequel, je sais pas. Honnêtement, à ce stade, ils ont déjà essayé beaucoup de choses. Hein.
C'est très bizarre Twitter parce que c'est effectivement un outil qui est utilisé par une fraction des gens qui utilisent Facebook ou d'autres réseaux sociaux.
Ah, c'est minuscule, pourtant, hein, ouais, c'est minuscule.
C'est 300 millions, je crois, là où même Instagram est à plus d'un milliard. Et sans même parler de Facebook. Et c'est curieux parce que malgré ça, tout le monde enfin, tous les gens, entre guillemets, qui ont quelque chose à dire sont sur Twitter. Les journalistes, les podcasteurs comme moi, les, il y a énorme, enfin, on voit sur tous les affiches, les posters de films, les reportages, tout le monde donne son compte Twitter. On donne pas tellement le compte Facebook. Et donc, même s'ils sont plus petits, ils ont quand même dans la société, dans le discours, dans la société, une importance qui est hyper élevée. Et donc, je sais pas, enfin bon, là, on a clairement pas du tout les détails sur la manière dont il opérerait concrètement cette bifurcation, ce changement de direction, mais peut-être, pourquoi pas. Moi, j'ai 50 000 followers sur Twitter, ça me donne une sorte de super pouvoir de d'estime de moi. Si jamais les followers n'ont plus d'importance, qu'est-ce que je vais faire, quoi? Parce que je suis sûr que je pourrai jamais reconstruire un truc comme ça ailleurs. Donc, je sais pas. Je suis assez angoissé par cette annonce de Jack Dorsey.
Après, c'est un sujet, enfin le sujet de la quantification de ta valeur en tant que personne, en tant que contenu, par le nombre de likes, c'est un sujet qui est pour le coup transverse à beaucoup de plateformes. Il y a Instagram qui apparemment, je sais pas si t'as lu ça, qui envisagerait aussi de supprimer la mention du nombre de likes sur des contenus, parce qu'on sait aussi les dérives que ça peut apporter avec, bon, à part faire l'histoire, hein, mais sur la désinformation, sur les bots, sur la viralité à tout prix, etc. Enfin, quand on y pense, ce principe de follower, etc., il est quand même très propre à Internet, et il a quand même amené beaucoup d'effets négatifs, d'effets retors sur la manière dont on gère un média, la manière dont on gère nous-mêmes, la manière dont on voit nos corps, nos visages. Enfin, c'est fascinant quand on y réfléchit, mais c'est pas complètement illogique que Twitter y réfléchisse aussi.
Moi, je pense que il y a effectivement, enfin, c'est tous les problèmes des algorithmes, mais la raison, je pense qu'il réfléchir à ça et peut-être même en diminuer l'importance ou peut-être l'importance publique est peut-être une solution, mais je crois aussi qu'on oublie la raison pour laquelle ils sont arrivés sur le devant de la scène, et ça comblait un besoin, le besoin de savoir ce qui était important, intéressant ou non. Alors ça a eu ces effets pervers que tu évoques, c'est certain, mais je crois que le fait de les supprimer retirerait aussi quelque chose aux réseaux sociaux et à la manière dont on les utilise. S'il n'y a plus du tout de marqueur, de popularité, de quelque chose, alors oui, pour moi, personnellement, parce que quand un tweet a 10 likes de plus, je ressens ce petit shot d'adrénaline qui fait que je comprends que je suis une personne de qualité, tu vois, parce que j'ai eu 10 likes de plus, évidemment. Mais je crois qu'il y a aussi une valeur dans le fonctionnement de ces réseaux qui est pas nulle. Et donc, ça pourrait avoir des conséquences de les supprimer. Enfin, bref, on verra déjà où il va aller avec cette histoire. Dernier sujet que je voulais évoquer, le gouvernement anglais est en train de mettre en place un système de vérification d'âge sur les sites pornographiques qui devra être en place avant le 15 juillet. Et la manière dont ça fonctionne, c'est que tous les sites qui ont au moins un tiers de leur contenu qui est de nature pornographique va devoir implémenter un système de vérification d'âge qui fonctionnera de la manière suivante. Soit l'utilisateur doit envoyer, tenez-vous bien, envoyer une photo de sa pièce d'identité au site, je ne plaisante pas, soit on peut acheter dans un café une carte avec un code qui atteste en fait qu'on a plus de 18 ans. Donc on va dans un café.
Ça, c'est le pire.
Dans le café.
C'est le pire. T'imagines aller chez ton buraliste et dire bonjour, j'aimerais voir du porno, voici ma carte bancaire. Enfin, c'est l'enfer.
Clairement, c'est assez horrible. Je ne sais pas si c'est pire que de donner ta carte, ton passeport à une société qui gère des sites porno. Enfin, clairement, je ne sais pas ce qui pense. Bon, d'une part, je me demande si c'est pas un moyen de faire en sorte que les gens n'aillent plus sur les sites porno, parce que c'est tellement repoussant comme idée que les gens vont se dire bon bah ok. Je pense que les magazines porno vont connaître une remontée de popularité. Et en même temps, tu sais, quand tu dis ah imagine aller dans un bureau et dire je voudrais voir du porno et tu files ta carte bleue. Il fut une époque pas si lointaine où on allait acheter des magazines porno chez les buralistes, quoi. Donc, enfin, je dis on, c'est impersonnel, hein. Bien sûr, moi, je le faisais pas. Mais donc, je sais pas, c'est pas forcément si impossible à concevoir que ça.
Alors, il y a deux choses à dire. Alors déjà, la loi anglaise autorise l'utilisation de VPN. Donc ça, c'est quand même important. C'est-à-dire que j'aurai le droit, en tant que citoyen anglais, d'utiliser un VPN pour faire croire à mon pour faire croire à mon ordinateur que je suis pas en Angleterre et du coup accéder de manière normale au site porno. Donc ça, c'est déjà ça le prix, on va dire. Après, moi, je trouve ce projet assez effarant de se dire qu'on est dans une époque où on a des articles sur des failles de sécurité toutes les semaines qu'on vient de traverser pendant un an, le scandale Cambridge Analytica. Bah, Cambridge Analytica, on s'est quand même ému et à raison du trafic de données portant sur nos goûts, nos opinions politiques, etc. Là, on parle quand même de données encore plus intime. On parle quand même de confier à des sites porno la possibilité d'associer mon nom et mon prénom, mon identité, mon âge. Donc je m'appelle Lucie Ronfaux, j'ai 27 ans, et avec ce que je regarde comme pornographie, quoi.
Oui, parce que
alors il faut savoir.
ça peut évidemment, je ne sais pas si les gens comprennent bien, mais c'est pas juste qu'on va aller voir des sites porno. Si moi je filme ma pièce d'identité au site et que ensuite je vais regarder je sais pas des vidéos avec des homosexuels ou des vidéos avec des transsexuels, je sais pas, et ben c'est des données hyper personnelles sur ce que j'aime et sur mes fantasmes, etc. Donc effectivement quand si on est ému de la question des données personnelles, bah là c'est encore plus problématique.
Puis alors par ailleurs, et je le dis pour les auditeurs qui, je suis sûre, sont peu nombreux ici à regarder du porno en ligne, les
personne
sites
personne
porno les sites porno collectent déjà vos données. Alors ça c'est clair et net. On le sait moins parce que bah on se renseigne moins, etc. Mais des sites comme YouPorn, comme Xhamster, en fait il y a un gros conglomérat qui s'appelle MindGeek, qui est un conglomérat canadien qui détient les plus gros sites porno sur Terre. Et pour le coup, ces sites arrivent à constituer un profil, alors qui est anonyme du coup, parce qu'on ne donne pas nos données privées, mais qui peut associer bah, telle IP. On a remarqué qu'ils regardaient que cette IP regardait uniquement des vidéos de pas plus de 10 minutes, qu'elle avait tendance à regarder telle ou telle pratique. Donc du coup, sur la page d'accueil, ben, on va plutôt lui mettre en avant uniquement des vidéos de 10 minutes avec telle ou telle pratique. Et en fait, ça, c'est un principe qui est appliqué sur tout le web, hein. Je veux dire, Facebook fonctionne comme ça, Twitter fonctionne comme ça, Instagram fonctionne comme ça, YouTube fonctionne comme ça. Sauf que là, on parle de données. C'est la sexualité, quoi. C'est quand même. Alors oui, certes, on achetait des magazines porno quand on était plus jeune dans les libéralistes. Mais chez les buralistes, mais ben moi c'est vraiment un sujet qui m'interpelle beaucoup et je trouve qu'on s'en émeut assez peu. Et le problème, c'est que c'est un sujet qui est porté à des fins, comment dire, à des fins qui sont compréhensibles, hein. Le fait de protéger les enfants de la pornographie, c'est aussi un sujet. C'est vrai que nos gamins maintenant accèdent à la pornographie de manière très simple et qu'il n'y a rien qui les en empêche. Après, moi, je pense que la solution là-dessus, c'est elle vient pas des sites porno. Je pense que la solution, elle vient des parents et qu'il y a un vrai travail d'éducation à faire. Et il y a aussi des outils qui existent déjà de contrôle parentaux, etc. Alors certes, les enfants savent les contourner, mais les enfants, ils savent tout contourner, hein. Votre gosse,
bah, c'est
si
ça
vous
le pire.
Non, il va maîtriser un VPN dans 2 mois, hein. Donc bon,
exactement. Cette loi ne va certainement pas empêcher et j'ai souvent tendance à dire que c'est pas parce que ça va pas marcher à 100% qu'il faut pas faire quelque chose, mais en l'occurrence ça a des effets pervers, je crois, et puis surtout tous les enfants de la Terre qui veulent voir du porno vont réussir. Donc et je crois qu'on en parle dans l'épisode suivant, donc sur l'éducation et la tech et les enfants. Et on dit le plus important, c'est d'expliquer aux enfants, parce que ce que t'évoques, la question du porno qui est facilement accessible aux enfants, le problème, c'est que ça donne une vision vraiment déformée de la sexualité.
Violente, bien sûr.
Ouais. Et ça, c'est vraiment problématique. Mais bon, peut-être l'un des arguments qu'ils donnent, c'est qu'avec une recherche YouTube, tu vas pouvoir tomber, une recherche, pardon, Google, tu vas pouvoir tomber sur des sites porno, mais en même temps, c'est pas vraiment le cas. Et donc là, si tu tombes dessus, ça te bloquera, mais c'est pas le cas, parce qu'en faisant des recherches Google, je crois qu'il faut vraiment le vouloir pour tomber sur des trucs porno. Ils ont déjà des filtres au niveau de Google, donc je sais pas. Bref.
Oui, puis même quand ça arrive. Enfin, moi, quand j'avais 10 ans, j'ai fait un exposé sur Adam et Ève et je suis tombée sur du porno et je m'en suis remise parce que justement, j'avais des parents qui étaient là pour m'expliquer qu'est-ce que c'était et dans quelles circonstances on pouvait les regarder ou pas et en quoi c'était pas encore pour moi. Bon, après c'est plus simple à dire qu'à faire, hein, mais
c'est sûr.
Moi je crois que beaucoup de problèmes dans la tech, c'est les hommes et les femmes qui peuvent les régler en premier, hein, avant les sites.
Bon, peut-être qu'il y a des arguments pour cette loi. Clairement, tous les deux, on n'est pas complètement convaincus en tout cas. Bon, on conclut avec Notre-Dame de Paris, bien sûr. Il y a une initiative intéressante de Wikimedia qui propose à tout le monde de fournir des clichés de Notre-Dame au site Wikimedia. Est-ce que tu crois que ça peut servir à quelque chose ou c'est juste pour la beauté du geste ?
C'est super important. La même manière que l'open source dans les logiciels est important, le fait de mettre en CC, en Creative Commons des images, ça permet de constituer aussi un capital de contenu entre guillemets qui pourrait être transmis à d'autres générations sur Internet. Donc ouais, moi je trouve ça très bien cette initiative.
Alors il y a que 373 photos qui ont été mises sur le site jusqu'à maintenant. C'est un petit peu décevant. Mais bon, vous pouvez vous consoler en vous disant que je crois qu'encore aujourd'hui, il y a Assassin's Creed Unity, qui est un jeu vidéo disponible sur PC, qui est gratuit et il se passe dans Paris et la cathédrale est pas modélisée exactement de manière réaliste, mais elle est super bien modélisée, elle est très très belle et il est disponible gratuitement sur le logiciel de Ubisoft qui s'appelle Uplay. Donc si vous cherchez Assassin's Creed Unity gratuit, vous avez encore quelques jours, je crois, pour le télécharger. Peut-être que ça se termine aujourd'hui ou demain, je ne sais plus. Mais allez-y. Et ce qui est marrant, c'est que pendant quelques années, la cathédrale Notre-Dame, le seul moyen qu'on aura de la visiter, ça sera peut-être dans des jeux ou en réalité virtuelle. Je crois que c'est dans 5 ans qu'on pourra la revoir. Hein, pile dans 5 ans, jour pour jour, évidemment, avec aucun retard. C'est ce qui nous a été promis. Donc, pendant les 5 prochaines années, pas une de plus, vous pourrez... Le seul moyen sera de voir ça en réalité virtuelle. Ce qui est... Je sais pas, j'ai trouvé ça intéressant de me dire que le lieu n'existait plus vraiment, même si bien sûr il existe encore, mais on peut encore le visiter virtuellement. J'ai trouvé ça intéressant. Et c'est tout ce dont on va vous parler aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir passé cette heure, un petit peu plus d'une heure avec nous. Si vous voulez encore plus de ce que Lucie a à vous raconter, où est-ce que les internautes pourraient aller, Lucie ? Dis-moi tout.
Eh ben, ils peuvent faire deux choses, soit me suivre sur Twitter, tu mettras le compte, j'imagine, mon nom, c'est Lucie Ronfaux.
Tout à fait. Et
par ailleurs, eh bien, sur le Figaro et le Figaro.fr, moi je travaille pour la rubrique Nouvelles Technologies, donc vous tapez Nouvelles Technologies Figaro sur votre moteur de recherche préféré et vous tomberez sur mes articles, ou vous pouvez aussi, folie, acheter du papier et aller acheter le Figaro papier tous les jours dans votre buraliste.
Je vous encourage à le faire. La section Figaro Tech est de grande qualité. Merci donc à Lucie de nous avoir accompagnés. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur frenchspin.fr et venir y laisser des commentaires si on a dit des choses qui vous ont intéressé, dérangé, avec lesquelles vous étiez d'accord ou pas. N'hésitez pas à le faire. Et bien sûr, sur patreon.com/rdvtech, vous créez un compte, vous choisissez la quantité d'argent que vous donné par épisode, c'est vous qui gardez entièrement 100% le contrôle et ça vous permet de soutenir l'émission et d'accéder au podcast privé des Patriotes. C'est évidemment une chose que j'espère vous appréciez. Peut-être qu'on fera un petit truc sur Avengers à un moment, je sais pas. On verra un truc où je me lâcherai sur Avengers. Je suis un grand fan du MCU, donc comme j'y vais demain, peut-être que je fournirai quelque chose à ceux qui veulent des spoilers ou pas, je sais pas, on verra. Merci à vous tous de nous avoir écoutés, merci encore une fois Lucie d'avoir été avec moi et dans une semaine on aura donc, oui, que j'oublie pas, on aura l'épisode sur l'éducation et les enfants et la tech comme épisode spécial la semaine prochaine et on revient avec l'actu la semaine d'après. Merci à tous, ciao ciao.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.